Vous êtes au mauvais endroit, au mauvais moment. Et un crime survient devant vos yeux. Impossible de ne pas regarder. La chaîne télé, Témoin, pour voir la vérité en pleine face. Débrouillé dès le mardi 9 avril.
Geneviève Peterson. Elle réécrit le scénario de l'actualité tous les jours.
Vous écoutez
Geneviève Peterson.
Cube Radio.
C'est l'heure de rejoindre Pierre Nantel qui nous parle du discours du trône qui aura lieu demain. Et là, Pierre, les enjeux sont grands quand même. C'est aussi bien d'être bon le discours parce que ça pourrait déclencher des élections.
Effectivement, Geneviève, et honnêtement, je me demande si l'équipe de Justin Trudeau, ils sont pas en train de manger leur bas un peu dans la mesure où c'est de décider de faire un discours du trône dans un contexte avec autant d'imprévisibilité liée à la COVID. Je pense que il y avait une forme d'assomption que on n'allait pas tomber si vite dans une deuxième vague ou qu'elle serait toute petite. Et aujourd'hui, en tout cas, il n'y a aucun doute que ça va devoir un peu comme un discours du trône, c'est comme un peu les grandes intentions. Fait que d'après moi, il va y avoir comme des un paquet de points qui sont liés à la gestion du déficit et des impacts de la COVID-19, mais il va probablement y avoir tout un volet à rattacher comme une remorque en arrière qui dit « Et pour la COVID-19, voici ce qu'on fera. » Parce que dans l'ensemble, les différentes fuites, différentes informations qui sortent actuellement, mais il y en a qui l'ont fait de façon très éloquente. Nabil Bind, le ministre de l'Innovation et des Sciences et des Industries, a fait clairement savoir qu'il y a un gros intérêt pour le développement de la filière de l'électrification des transports. Je veux dire, moi, je peux pas être plus content que ça. Tu sais, quand je cite ici, nous pourrions être un leader mondial dans la fabrication de batteries, si nous tenions partie de nos ressources naturelles comme le lithium, le cobalt. Je suis content d'entendre ça. Tu comprends que moi, j'ai parlé de ça. Moi, j'étais responsable du patrimoine et de l'électrification des transports à l'époque pour la NPD. Alors, pour moi, que Nadine Baines décide de pousser fort sur ce secteur-là, c'est une bonne nouvelle, d'autant plus que le Québec est quand même un gros joueur, hein. Faut rappeler, là, l'autobus Lyon, qui fait aussi des camions électriques maintenant pour que le CN en a acheté 50, même Amazon en a acheté 10. Donc, à moi, ça paraît très bien, évidemment, là. Mais ce sont des beaux investissements pour que dont Québec pourra bénéficier. C'est la même chose au niveau de l'IREC, des travaux de Karim Zaghib au niveau des moteurs, des transmissions TM4 qui est associée à Dana. Fait qu'il y a beaucoup, une grosse filière, et M. Baines a toujours montré un intérêt pour ça. Alors, souhaitons que ce soit un sérieux, qu'on va vraiment vouloir faire ça. Et deuxièmement, souhaitons que ce ne soit pas uniquement pour faire excuser qu'on ne fera rien du côté des sables bitumineux, parce que les sables bitumineux, on connaît leur empreinte environnementale. Mm. Alors, c'est sûr qu'il faut s'investir dans le futur. Ça ne veut pas dire qu'on désinvestit le fossile. Alors, j'espère qu'on va désinvestir un peu le fossile, puis que l'Alberta pourra potentiellement se migrer vers autre chose dans son économie. Mais les autres aspects qui sont sortis, entre autres, il y a Joël Denis Bellavance qui évoquait que la ministre des Finances, puis la vice-première ministre, Chrystia Freeland, avait endossé pas mal la notion, le principe de ce que Myriam Monsef, c'est la ministre des Femmes et l'égalité des genres, à quel point la récession, c'était pas juste une récession, c'était une she-session. C'était une recession, une she-session, comme quoi les femmes sont pas mal celles qui absorbent le pire des coûts liés à la pandémie. Et ce qui mène à ça, c'est que les sources libérales ont évoqué à ce journaliste qu'ils avaient en vue, pour le discours du trône, une refonte du programme d'assurance-emploi, des investissements dans les soins de longue durée et pour la santé, une amélioration des services de garde. Et puis ça, c'est un enjeu là dont on parle à Ottawa depuis 20 ans, puis que le NPD a d'ailleurs mis beaucoup de l'avant, des mesures pour une relance verte en misant sur les rénovations des édifices pour les rendre moins énergivores et bien sûr l'électrification des transports. Alors, effectivement, ça sent que le NPD va vouloir soutenir ça. Et le discours du trône et le vote qui s'ensuit, le vote de confiance, ils n'ont besoin que d'un seul parti pour les soutenir. Alors déjà, honnêtement, si j'étais à la place de NPD, je regarde tout ça, c'est comme ça a déjà l'air pas mal bon. Serons-nous de ceux qui vont dire non à ça? Sûrement pas. Alors ça, c'est très bien. Par contre, parce qu'il y a rapport à la COVID, ben on peut espérer que le gouvernement libéral va avoir entendu la demande concertée là, de tous les premiers ministres. Mm-hmm. Ben, oui, tous les premiers ministres, la semaine passée, il y en avait quatre à l'écran, mais tout le monde était solidaire dans cette demande de voir là au financement du fédéral à la santé qui, en 20 ans, est passé de 50% à 20% seulement des budgets de chacune des provinces. Puis en entrevue ce matin, on a parlé à Luc Thériault, qui est porte-parole du Bloc québécois en matière de santé, puis il a bien mis en lumière le sous-financement de la santé par le gouvernement fédéral. Si on peut l'écouter.
Le Québec et les premiers ministres des provinces disent présentement qu'ils veulent enfin que le fédéral respecte sa parole initiale de donner, de contribuer à 50% dans les transferts, dans les dépenses en santé. Là, on est rendu à 22%. Mm-hmm. Alors là, il y a un front commun qui se fait et ça va être déterminant. Ça, c'est pas des dépenses, c'est des investissements à long terme pour affronter quelque pandémie que ce soit.
On se rappellera que la ministre de la Santé, Patty Hajdu, quand on a eu la COVID est apparue, là, puis que bon, on a beaucoup blâmé Justin Trudeau de ne pas avoir fermé les frontières, tout ça, mais tranquillement, il y a une ministre qui était beaucoup plus transparente que les autres, c'était Patty Hajdu, qui a dit, écoutez, je suis allé voir dans l'entrepôt de ce qu'on gardait en cas de pandémie. Ben, franchement, c'était comme le garage à grand-papa. Il y avait 2-3 litres puis des trousses de premiers soins qui vont dans des chaloupes. T'sais. Elle était vraiment déçue. Alors, effectivement, il y a un paquet de préparatifs auxquels qu'on n'avait pas fait. Et comme il le disait tout à l'heure, je veux dire, si on veut être prête pour une pandémie, ça va de soi que on peut pas avoir des systèmes de santé qui sont toujours à étirer leurs ressources puis à bricoler des solutions. Puis c'est clair qu'il faut corriger ça. Ça m'a amené à faire une comparaison qui va pas mal se rappeler. Tu vas voir, on peut l'écouter, hein.
On pourrait donc ici faire un parallèle. On a constaté la vulnérabilité dans les CHSLD parce qu'il y avait un manque chronique de main-d'œuvre. Il y a donc une vulnérabilité dans nos systèmes de santé parce qu'il est sous-financé.
Oui, et puis ça dure depuis des décennies, ça. Et je pense que là, il est temps de rectifier le tir. Il faut tirer des leçons quand on passe des moments durs. Et cette leçon-là, si on passe à côté, on n'aura rien compris de ce qu'on doit tirer comme leçon de la pandémie.
Tu sais, c'est vrai que c'est intéressant comme parallèle dans la mesure où on sait tout ce qui s'est passé dans les CHSLD. C'était l'angle mort, un endroit où on investissait peu. Tout le monde le savait, puis on était vulnérable. Puis là, quand la pandémie est rentrée là-dedans, quand COVID est rentré là-dedans, on a eu les résultats flabbergastants qu'on a eus. Alors, effectivement, si tu regardes ça, où sont où nos faiblesses? Dans les systèmes de santé en général, il y a une énorme faiblesse. Je te dirais, mettons, que s'il y avait des pluies torrentielles, on verrait que notre système d'égouts pluviaux partout dans les grandes villes du Québec est déficient. Alors, pour le moment, on n'est pas sollicité. Alors, il y a des tas de dossiers comme ça qu'on sait qui sont en souffrance. Et le dossier du sous-financement de la santé, on finit par s'habituer à ça. T'sais, c'est la vieille rengaine. Les provinces disent un peu plus d'argent de fédéral dit non. Puis la réalité, c'est qu'effectivement, le système de santé a toujours fonctionné à déficit compte tenu du désinvestissement d'Ottawa. Fait que, espérons en tout cas qu'il va y avoir un pas dans cette direction-là. Parce que je ne sais pas si tu as entendu quand tu faisais leur conférence de presse la semaine passée, mais il y avait Brian Pallister, qui est le premier ministre du Manitoba. Tu sais, c'est celui qui a osé mettre une publicité pour dire, vous autres, vous avez des problèmes avec votre confession, on a besoin de plein de monde chez nous en santé et tout ça. C'est un gars qui est assez rocker, tu sais, il tourne les coins ronds.
Mais il faisait du prosélytisme.
Oui, il est allé dire hier, la semaine passée, il est allé dire, écoutez, là, c'est bien beau de voir le premier ministre du Canada pitcher de l'argent partout pour la COVID, c'est bien le fun, puis de dire qu'il faut faire ci, il faut faire ça, mais là, chez moi, avec la décoration, les draperies autour des fenêtres, là, faut travailler sur la fondation. La fondation, c'est qu'on est déficitaire chaque année, puis vous êtes supposé nous aider plus que ça. Fait qu'on verra bien.
Tu vas écouter ça pour nous, Pierre, demain, le discours du trône.
On va
s'en changer. Il nous reste une minute, même pas. En fait, j'étire le temps parce que j'étais vraiment curieuse de te parler parce que c'est le début des audiences du BAP concernant GNL Québec qui présente son projet. Là, GNL Québec qui souhaite construire une usine de liquéfaction de gaz naturel à la baie. Ça, c'est où est-ce que moi j'habitais, au Saguenay, 9 milliards de dollars. Évidemment, il y a des gens qui s'opposent à ça, mais il y a aussi des citoyens qui sont pour quand même.
Ben c'est sûr, écoute, quand t'as potentiellement un employeur qui peut présenter beaucoup de jobs comme ça, c'est sûr que, puis connaissant aussi la dépendance de la région à la production d'aluminium, on aimerait ça avoir un autre gros employeur d'importance. Le problème par rapport à ça, c'est toujours que c'est pas en soi, ben on peut être contre ou pour ou contre le transport avec des gros bateaux dans le fjord, puis bon, l'impact sur la nature, sur les baleines et le tourisme qui va avec les baleines, puis tout ça. Mais à la base, le gaz en question arriverait de l'Ouest canadien. Hein? Faut pas se leurrer, là, c'est le même gisement.
Oh, on a perdu Pierre. Ben, écoute donc, je pense que ce qu'il allait dire, c'est que ce gaz-là vient de l'Ouest canadien. C'est quand même un des gaz les plus polluants de la planète. Et c'est ce qu'on souligne. Ça menace, bien sûr, les écosystèmes. Et s'il y avait une fuite, ça serait complètement dommageable. Et j'ai envie de dire, ce qui est tout le temps le catch 22 avec ce dossier-là, le dossier de GNL Québec et de cette méga infrastructure de 9 milliards qui serait construite, c'est de se dire, oui, on a besoin d'emplois, mais à un moment donné, il faudrait présenter autre chose aux gens des régions que des industries qui misent justement sur l'énergie polluante. On devrait peut-être davantage miser sur de l'énergie verte.